Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons cette nouvelle série, La victoire finale. Nous sommes à l'étude numéro 2. Aujourd'hui, le titre sera La victoire par les mains levées. Les mains levées ont une grande puissance. La Sainte Bible est remplie de cette vérité, et cependant, elle reste une des plus grandes à échapper à notre compréhension. On ne donne guère d'enseignement à ce sujet-là. Dans l'Ancien Testament, nous lisons comment le peuple de Dieu profitait de tous les moyens scripturaires pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Cette puissance de Dieu fut sans aucun doute révélée aux enfants d'Israël quand ils élevèrent les mains dans la foi. J'aime voir les enfants de Dieu lever haut les mains au-dessus de leur tête. C'était ainsi dans la Pentecôte d'autrefois. Je parle pas de choses un peu farfelues parfois ou fanatiques. Je dis dans les communautés bien équilibrées de Pentecôte. La nouvelle façon charismatique de lever les mains semble tellement peu enthousiaste aujourd'hui. C'est probablement parce que on ne lève que les mains à moitié. Quand un drapeau flotte en berne, ça c'est un signe de mort. Allons donc au-delà du salut en l'Éternel. Et agitons même nos mains devant le Seigneur comme les sacrificateurs faisaient. Ils faisaient tournoyer l'offrande dans le temple de l'Éternel. Exode chapitre 29, verset 24. Nous levons nos mains parce que nous révérons et reconnaissons la sainteté de l'oracle divin. David dit dans le psaume chapitre 28, verset 2, « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. » Les saints commandements sont donc l'oracle de Dieu ou sa sainte parole donnée à son peuple. En particulier, les tables sur lesquelles les 10 commandements ont été écrits par la main de Dieu. Très chères aux Israélites, elles étaient gardées dans la sainte arche de l'Alliance. Quand les gens priaient, ils dirigeaient leurs mains dans sa direction, reconnaissant ainsi son caractère sacré et leur vénération de la sainte parole de Dieu. Dans l'épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 1 et le verset 14, nous lisons que la sainte parole de Dieu est devenue chair. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair, et habita au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est devenu, lui, la sainte parole révélée de Dieu pour nous. Il est l'oracle, il est le saint oracle. Il ne demeure plus dans une sorte de coffre terrestre. Oh non, non, il est ressuscité des morts et il est monté à la droite de Dieu. C'est pourquoi, quand nous l'adorons, nous élevons nos mains vers le saint oracle qui ne se trouve plus au niveau de simplement de nos yeux, mais au-dessus de nous. Il est assis dans les lieux célestes avec le Père. Réalisez-vous que votre corps accomplit des actes qui dépeignent vos émotions. Par exemple, quand vous frappez des mains, vous démontrez votre enthousiasme. Lorsque vous vous prosternez, vous manifestez une profonde émotion. En étant agenouillé, vous exprimez votre humilité et vous exprimez ainsi aussi votre dépendance de Dieu. Quand vous vous levez, vous exprimez votre empressement à servir ou carrément à partir pour le servir. Dieu le Père, il dit que les Israélites devaient manger le repas de la Pâque debout, montrant ainsi qu'ils étaient prêts à se mettre en marche. Assis, vous exprimez le repos et la confiance. Chaque acte qu'accomplit votre corps, c'est en quelque sorte le reflet d'une émotion. Pour sa part, même la danse exprime une grande joie. Je ne dis pas qu'il faut se rouler par terre, vous l'avez bien compris. Quand vous levez les mains, il s'agit d'un acte corporel signifiant que vous adorez Dieu. Votre corps tout entier l'adore, non seulement vos pensées, non seulement votre cœur et votre esprit, ni simplement même vos lèvres, mais tout votre corps adore Dieu et votre être entier en ressent les bienfaits. Et ces actes d'adoration montrent que vous reconnaissez la grandeur de Dieu et qu'il est au-dessus de vous. Il n'est pas votre marchepied, oublions ça. Il est souverain de votre vie. En Orient, on considère qu'il est avilisant de vivre dans une région de plaine. Les personnalités notoires ou puissantes, elles cherchent toujours à vivre dans un lieu un peu plus élevé. Il est dit dans le psaume 141, verset 2, s'il vous plaît, essayez de noter toutes ces citations bibliques, c'est important plus tard pour vérifier. Alors il est dit dans le psaume 141, verset 2, que ma prière vienne devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. L'offrande du soir était très importante. L'heure exacte en est sujette à controverse, mais nous savons qu'on la présentait avant l'apparition des étoiles, c'est-à-dire à la tombée du jour. Le moment choisi symbolisait l'achèvement, la journée était presque terminée lorsque on offrait le sacrifice du soir, donc en dernier, pour couvrir ainsi tous les péchés qui ont été commis ce jour-là. Selon la coutume juive, le jour ne commençait pas le matin pour se terminer à la nuit, mais il commençait au coucher du soleil. Un jour durait d'un coucher du soleil à l'autre. Quand les sacrificateurs présentaient l'offrande du soir, il demandait à l'Éternel de pardonner les péchés que la nation avait commis ce jour même. Connaissant cette vérité, vous pouvez réaliser ce que l'élévation des mains peut signifier. Elle est, en quelque sorte, l'acte d'adoration du soir. Elle est un signe particulier de rapprochement avec Dieu, notre Père Céleste, pour obtenir son pardon et sa bénédiction. C'est lever nos regards vers Dieu pour couvrir les péchés commis sciemment ou par ignorance, et ainsi de tout mettre sous le sang de Jésus-Christ. Cette démarche signifie que nous nous tournons vers l'Éternel afin qu'il nous protège ainsi que notre famille, et cela pendant les heures de la nuit. Et c'est pourquoi il est tellement bon qu'avant d'aller nous coucher, nous nous arrêtions un moment au bord du lit et que nous levions nos mains. Et cela pour dire « Merci, oui, merci pour cette journée, Seigneur !» Si vous vous arrêtez une minute et dites « Merci pour cette bénédiction » ou « Merci pour cette autre », « Couvre-moi de ton sang précieux, protège-moi !» Oui, et tout cela en levant vos mains. Et ce sera un peu comme l'offrande du soir. Néanmoins, vous n'avez pas besoin d'attendre le moment d'aller au lit. Il est beau d'adorer Dieu ainsi à toute heure du jour, quand vous avez un petit moment. Il n'est même pas défendu de le louer si vous devez aller vous cacher aux toilettes. Qu'est-ce que ça peut faire? Le Seigneur comprend. Quand vous levez vos mains, vous attirez l'attention sur vous. Les cieux commencent à regarder dans votre direction. À votre avis, combien de personnes ont élevé leurs mains pour adorer Dieu dans votre ville où vous habitez? Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais vous pouvez connaître une telle communion avec Dieu que lorsque vous l'adorez et que son esprit descend sur vous, alors là vous ferez ces petits gestes auxquels personne ne pense. Et quand vous les ferez, Dieu dira « Regardez là-bas, un de mes enfants me fait signe des mains. » Maintenant, vous les anges, oui, vous les anges, descendez là-bas et bénissez-le, car il m'adore, alors que très peu le font aujourd'hui. Vous attirez ainsi l'attention des armées célestes sur vous, et ça c'est une réalité. Vous serez reliés à la puissante ligne céleste de haute tension, si on peut dire ainsi. Voyez-vous, les prophètes ont souvent levé leurs mains vers les cieux où siège le trône de Dieu. Regardons quelques grands hommes de jadis qui élevèrent leurs mains vers Dieu. Prenons par exemple le grand Moïse. Il est dit dans Exode, chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 16. Les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte depuis peu, lorsque l'ennemi monta contre eux sous la forme de l'armée des Amalécites. Israël se trouvait sans défense. Les Israélites n'avaient presque pas d'armes, seulement celles qu'ils avaient pu prendre à l'armée égyptienne, noyées et anéanties. Et Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sort. Sort, combat contre Amalek. Et demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, et Josué a fait exactement comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet de la colline. Et il arrivait lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Ce synchronisme est très significatif. Mais les mains de Moïse devenaient pesantes. Essayez, vous verrez, au bout d'un moment, on ne tient pas le coup. En d'autres termes, elles devenaient lasses. Et il est dit qu'ils prirent une pierre et ils la mirent sous lui, car il s'était tenu debout durant des heures et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ainsi Josué abattit Amalek et son peuple, on peut dire, au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse d'écrire ce témoignage dans un livre afin qu'on s'en souvienne et de le raconter devant le peuple. Et il ajouta, « J'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Voilà donc le moyen d'être débarrassé de vos ennemis. Levez donc simplement vos mains vers Dieu dans une entière soumission et laissez-le combattre pour vous, même contre les esprits que nous voyons pas. Ces esprits maléfiques. Et ce fut là que Moïse construisit un autel et il appela cet autel Jéhovah Nissi. Ça veut dire l'Éternel est ma bannière. Lorsque Moïse élevait ses deux mains, ce geste était semblable à une double bannière. Une double portion de puissance. Il était si fort que toutes les puissances démoniaques, vous avez entendu, les puissances des esprits mauvais déployées contre Israël, furent ainsi livrées à la défaite. Chers amis, n'aimeriez-vous pas embarrasser le diable? Alors, levez vos mains, cela a l'effet de le mettre mal à l'aise. Quand vous levez vos mains, vous le troublez. Oh oui, vous le dérangez. Il n'appréciera surtout pas d'être près de vous, car il voit deux Jéhovah Nissi agités en l'air. L'Éternel est ma bannière. Quel beau drapeau nous pouvons agiter devant l'ennemi. On peut dire ensemble Alléluia. Et cela lorsque nous levons nos mains, eh bien nous déclarons véritablement que l'Éternel est notre bannière. Il est notre signe de victoire. Quand la reine d'Angleterre réside à Buckingham Palace, son emblème est sur la hampe du drapeau. Lorsque elle s'en va, on l'enlève. Lorsque nous agitons nos mains, nous signifions au monde et au diable que le roi est dans sa résidence. Ce mouvement communique la victoire à notre esprit, et quand l'esprit est dans la victoire, celle-ci est acquise. Les grandes batailles ne se déroulent pas là-bas, dans des espaces très lointains, mais ici même, en moi-même. Peu importe ce que l'on peut essayer de me faire, si je vis dans la victoire, je m'élève au-dessus de toute situation. Lorsque vous levez vos mains, vous avez la victoire dans le combat. Dieu rendit cette vérité si réelle que lorsque Moïse baissait les mains, Israël commençait à perdre la bataille. Dieu nous montrait là une grande vérité. Le roi Salomon a prié toujours les mains levées. Notez 1 roi chapitre 8 verset 22 jusqu'au verset 24. Il est dit, et Salomon s'est tenu devant l'autel de l'Éternel en face de toute la congrégation d'Israël et étendit ses mains vers les cieux et dit, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh non, il n'y a point de Dieu comme toi dans les cieux en haut et sur la terre en bas, qui garde l'alliance et la bonté envers les serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Toi qui as gardé envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit, tu as parlé de ta bouche et de ta main, tu as accompli ta parole, comme il paraît aujourd'hui. Salomon ne tendait pas ses mains vers le lieu très saint, il regardait encore plus haut. Il leva les yeux vers les portes du ciel, car le Seigneur, le véritable oracle, n'était pas encore descendu. Et parce qu'il n'était pas encore descendu, le Seigneur Jésus-Christ, Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, était réellement dans l'esprit ce jour-là. Il n'agissait pas selon les lois du livre de Moïse quand il leva les mains et fit cette longue prière, mais il leva les mains, atteignant la gloire infinie de Dieu lui-même. Oui, vers l'Éternel, assis sur son trône, loin au-dessus de toute la terre. Salomon était roi de tout Israël. Je crois que si nous le regardons en considérant toutes les richesses que Dieu lui donne, lui a données, ainsi que la sagesse et un règne paisible, eh bien nous verrons que durant ses premières années de règne, il fut le plus grand roi que Israël ait jamais connu. Dieu l'appela à construire le Saint Temple. Et Dieu remplit ce temple de sa gloire. Je crois que Dieu nous bénit quand nous élevons nos mains, car c'est un signe d'adoration profonde. À travers lui, nous reconnaissons que le Seigneur est bien au-dessus de nous. Et Dieu reconnaît notre acte d'adoration. Par là, la gloire de Dieu sera communiquée à nos vies. Voici quelques textes des Saintes Écritures concernant les mains levées. Notez-les, s'il vous plaît. Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains dans le lieu saint et bénissez l'Éternel. C'est un ordre qui est donné. Nous obéissons aux autres lois et aux commandements, pourquoi ne tenons-nous pas compte de celui-ci ? Notez ensuite psaume, le psaume 63, versets 3 et 4. Là, il est dit, car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai durant ma vie. J'élèverai mes mains en ton saint nom. Ensuite, notez 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. En allemand, il est dit sans douter. L'apôtre Paul nous dit que nous devrions toujours et en tout lieu nous sentir libres d'élever nos mains en prière et en adoration à l'Éternel. On remarque trois points au sujet de ces mains. Elles sont premièrement saintes, elles sont sans colère et elles sont confiantes. Ça, c'est un signe de foi et de confiance en Dieu. Les mains pécheresses ou sanglantes ne seront pas bénies, mais elles seront jugées par le Seigneur. Ensuite, nous avons Hébreux, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi redresser les mains lassées ou languissantes. Les mains de nombreux chrétiens ou d'aujourd'hui semblent très pesantes. Ils ne peuvent pas les lever. Le texte parle aussi des genoux défaillants. Ce commandement présente une double direction. Les genoux symbolisent la vie d'intercession et les mains levées symbolisent la vie de louange. Nous avons donc besoin de ces deux activités spirituelles afin de garder un équilibre. Certains prient toujours, mais ils ne louent jamais. Et nous avons Saint-Luc, notez Saint-Luc, chapitre 24, versets 50 et 51. Il est dit, et il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Le dernier geste visible de Jésus, c'était d'élever ses mains pour bénir. Pendant que ses mains étaient levées, voilà qu'il fut enlevé au ciel. C'est ainsi que Jésus-Christ monta vers les cieux. Chers amis, en lisant les récits de la mort de certains de nos martyrs, nous découvrons que beaucoup sont morts les mains levées au ciel. Lorsque Thomas Ridley, le témoin fidèle, lorsqu'il fut mené au bûcher, on écrivit ce témoignage à son sujet. En arrivant dans ce lieu, le docteur Ridley, admirable, les deux mains levées avec ferveur, regardait vers le ciel. Puis, peu après, apercevant Maître Latimer ou Latimer, il courut vers lui, l'air merveilleusement heureux. Il le prit dans ses bras et l'embrassa. Comme ils étaient près l'un de l'autre, il le consola en disant « Aie bon courage, frère, car Dieu apaisera la furie du feu, ou alors il nous fortifiera pour la supporter. Puis ils apportèrent le fagot enflammé, et le déposèrent aux pieds du docteur Ridley, à qui maître Latimer parla en ces termes. « Courage ! Courage, maître Ridley ! Montre-toi un homme ! Par la grâce de Dieu, nous allons en ce jour même, oui, en ce jour même, nous allons être une torche en Angleterre. J'ai confiance qu'elle ne s'éteindra jamais. » Quand Thomas Cranmer, l'archevêque protestant de Canterbury, quand il fut mené au bûcher, il mourut d'une façon très très noble, à cause de la terrible pression exercée sur lui quand il fut condamné à être brûlé vif. Il était d'abord, on peut dire, croyez-le ou pas, mais on comprend, parce qu'on a de la compassion dans notre cœur, il s'était d'abord rétracté. Ça peut nous arriver. Cet homme très bon, et grand, avait donc trahi le Seigneur au début. L'apôtre Pierre n'a pas fait mieux. Mais au dernier moment, alors qu'il devait prononcer son discours de reniement de la foi, il remporta la victoire sur la chair et il dit « Et maintenant, je viens à l'action » qui plus que tout ce que j'ai pu faire ou dire dans ma vie, troubla ma conscience, à savoir répandre des choses contraires à la vérité. J'y renonce, et je les refuse ici et maintenant, y compris ce que j'ai écrit de ma main et qui était contraire à la vérité à laquelle je croyais de tout mon cœur. J'ai écrit ces lignes par crainte, oui, par lâcheté de la mort, pour essayer de sauver ma vie, si possible. Cela inclut toutes les déclamations et déclarations qui ont été écrites ou même signées de ma propre main depuis ma destitution. Cette destitution dans laquelle j'ai vraiment affirmé beaucoup de choses qui étaient totalement fausses. Et puisque ma main a péché terriblement en écrivant en contradiction avec mon cœur et mon esprit, eh bien ma main devra donc être punie en premier. Car si moi je vais au feu, ma main sera brûlée en premier. Ensuite, on a fait descendre Cranmer de l'estrade et on l'a conduit au bûcher. Mais quand il arriva au lieu où les saints évêques et martyrs de Dieu, tels que Hugh Latimer et Nicholas Ridley, avaient été brûlés avant lui pour avoir confessé la vérité. Il s'agenouilla, pria brièvement et ôta ses vêtements jusqu'à la chemise et se prépara à mourir. Sa chemise était longue et lui arrivait jusqu'aux pieds. Il était nu-pied et lorsque ses deux bonnets lui furent retirés, sa tête apparut complètement chauve. Sa longue barbe épaisse donnait à son visage une merveilleuse gravité. Une telle dignité toucha même aussi bien ses amis que ses ennemis. Ceux-ci On fait alors lier Cranmer avec une chaîne de fer, et quand ils ont vu qu'il était inébranlable et que sa condamnation ne le ferait pas changer, ils ordonnèrent qu'on le brûle vif. Lorsque le bois fut embrasé et que le feu commença à brûler à ses côtés, il étendit son bras et il mit sa main droite dans les flammes et il la tient si fermement immobile, gardant l'autre avec laquelle il essuya son visage, si bien que tous ont pu voir sa main brûler avant même que son corps ne soit touché. Son corps demeura aussi dans les flammes ardentes avec une telle constance que, se tenant parfaitement immobile, il sembla ne pas bouger davantage que le bûcher auquel il était lié. Ses yeux étaient levés au ciel et il répéta « Oui, cette main indigne, aussi longtemps que sa voix le lui permettait, il répéta « Ma main indigne ». Puis avec les mêmes mots que Étienne, il a dit « Seigneur Jésus, reçois maintenant mon esprit ». Et il rendit l'esprit dans la furie des flammes. L'évêque protestant Robert Ferrard, homme d'une grande piété, mourut également sur le bûcher. On dit de lui, il se tenait là, debout, avec tellement d'endurance qu'il ne faisait aucun mouvement, mais se dressait en élevant ses moignons en signe de prière. Partout depuis Édimbourg jusqu'au pays de Galles et à Londres, des hommes et des femmes de grande valeur sont morts dans les flammes de la persécution, les mains levées vers Dieu. Ces sacrifices amènent la bénédiction et la gloire, et les portes de la gloire s'élevèrent, se sont élevés devant eux, alors qu'ils se tenaient dans les flammes pour le nom, pour le saint nom de Jésus-Christ et pour la vérité à laquelle nous croyons aujourd'hui et qui nous a franchis. Chers amis, j'aimerais, avant que nous prions ensemble, ce que j'ai reçu dans mon cœur, de vous transmettre pour vous encourager, mais aussi pour vous enseigner quelque chose. Écoutez bien. Il est dit au psaume chapitre 30, verset 23, « Combien est grande, ô mon Dieu, l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent. » J'ai pris cela dans la Bible de l'abbé Crampon. Psaume, chapitre 30, verset 23. Je répète, « Combien est grande, ô mon Dieu, l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent. » Quand je viens à considérer avec quel désir et quel amour quelques âmes fidèles s'approchent de toi, Seigneur, alors je me confonds souvent en moi-même et je rougis de me présenter à ton autel et à la table sacrée de la communion avec tant de froideur et de sécheresse, d'y porter un cœur si aride, si tiède, et ne point ressentir cet attrait puissant, cette ardeur qu'éprouvent quelques-uns de tes serviteurs, leurs larmes tant le désir qui les presse est grand et leurs émotions profondes. Ils ont soif de toi, ô mon Dieu, toi qui es la source d'eau vive, et leur cœur et leur bouche s'ouvrent également pour s'y désaltérer. Rien ne peut rassasier ni tempérer leur faim que ton corps sacré, qu'ils reçoivent symboliquement avec une sainte avidité et les transporte d'une joie ineffable. Oh, que cette ardente foi est une preuve sensible de ta présence dans le sacrement, car ils reconnaissent véritablement le Seigneur dans la fraction du pain, ceux dont le cœur est tout brûlant lorsque Jésus est avec eux. Saint Luc chapitre 24, verset 29. Qu'une affection si tendre, un amour si vif et souvent loin de moi, sois donc, sois-moi propice, oui, ô mon Jésus, sois plein de douceur et de miséricorde, aie pitié d'un pauvre mendiant et fais que j'éprouve au moins quelquefois dans la sainte communion quelques mouvements de cet amour qui embrase tout le cœur, afin que ma foi s'affermisse et que mon espérance en ta bonté s'accroisse, et qu'enflammée par cette manne céleste, jamais la charité ne s'éteigne en moi. Ô Dieu de bonté, tu es tout-puissant, oui, tout-puissant, pour m'accorder la grâce que j'implore, pour me remplir de l'esprit de ferveur et me visiter dans ta clémence quand le jour choisi, choisi par toi, sera enfin venu. Car encore que je ne brûle pas de la même ardeur que ces âmes pieuses, profondément sincères, cependant, par ta grâce, j'aspire à leur ressembler, désirant et demandant d'être compté parmi ceux qui ont pour toi un si vif amour et de pouvoir entrer avec eux pour être avec toi pour l'éternité. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Père céleste et Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, pour terminer, on priera ensemble une courte prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce pour la sainte parole qui d'âge en âge, depuis les temps des prophètes et de ton évangile, nous a été transmise et conservée. Nous t'en prions, rends vivant pour nous, par ton Saint-Esprit, le message de ta révélation. Fais-nous pénétrer toujours plus profondément son sens caché et fais-nous accueillir son message d'un cœur toujours plus ouvert. Oui, fais-nous trouver une joie toujours accrue en ses consolations. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Que le Seigneur vous bénisse richement en tout, car il vous aime. Il vous aime. Au revoir, mes chers amis. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir.